Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par RDIWA et Radio Saint-Ferréol.
Biotope. Un programme soutenu par BioValley.
Dans le cadre de cet épisode Biotope sur RDIWA 107.5 FM, sur Radio Saint-Ferréol 94.2 et sur internet www.rdwa.fr, nous allons nous intéresser au premier magazine vidéo sur les alternatives écologiques et sociales dans la Drôme en compagnie de son créateur François Hogg. Bonjour.
Bonjour.
Qui êtes-vous, François ?
Je suis réalisateur et producteur depuis 9 ans en fait maintenant. Je me suis installé dans le Diwa il y a 13 ans avec mon ex-compagne qui était ingénieur agro. Et j'ai fait des petits boulots. J'ai été aussi enseignant en histoire-géographie en collège et pendant un an et demi. Et puis, comme j'avais fait des études d'audiovisuel, j'ai décidé de créer ma société d'audiovisuel en 2004. J'ai fait à ce moment-là une quinzaine de films de commande publicitaires ou institutionnels. Et puis, je me suis intéressé aux questions écologiques dans le cadre de documentaires ou de reportages. J'étais en fait depuis longtemps sensibilisé à l'écologie et aux problèmes climatiques et à l'agriculture bio, puisque j'avais aidé sur Toulouse mon ex-compagne donc à démarcher des clients pour vendre des paniers bio paysans fermiers. C'était dans les années 98-97 et j'étais très content d'arriver dans le Diwa, puisque la Drôme en particulier était un département où il y avait un nombre important de producteurs en bio et en surface agricole aussi, en bio ou en conversion. C'était très, on va dire, en avance sur l'ensemble du territoire français.
Producteur, réalisateur de vidéos, vous avez bien fait de le dire, parce que ça marche aussi pour la radio, par exemple. Votre parcours, justement, d'aller dans la publicité, dans tout un tas de choses, on imagine que vous avez fait des choses peut-être qu'aujourd'hui vous n'aimez pas trop, quoi, d'avoir les pieds dans le plat, dans le capitalisme et ce genre de choses. Qu'est-ce qui fait le survirement de situation ?
C'est une très bonne question. En général, on dit ça quand on ne sait pas comment y répondre. Non, je ne sais pas comment y répondre, parce qu'en fait, je n'ai jamais fait des films, des publicités pour des multinationales de l'agroalimentaire ou des multinationales tout court, ni pour des grands groupes. J'ai toujours fait des films publicitaires pour des entreprises régionales et locales. J'en ai fait une dizaine, je crois, à peu près.
Alors, c'était quel type de film publicitaire ?
Les œufs fermiers bio et aussi fermiers de Valdeur, qui est une société qui était quand même un groupe régional qui vendait des œufs pour la grande distribution. Et puis aussi des entreprises comme Michel Valentin Industries, qui faisait des tuteurs. Alors, c'était ses enfants qui géraient la société sur l'Oriol et qui, donc, m'ont commandé des films de publicité, de démonstration technique pour les magasins de bricolage. Voilà.
Bon, donc, mais c'était quand même très local. Donc, c'était pas. Effectivement, vous n'étiez pas dans la régionale. Mauvaise publicité, on va dire.
Non, je ne suis pas dans la publicité des multinationales, qui finalement est celle qui finance en grande partie la télévision et qui pose problème, puisqu'on ne peut pas comprendre l'évolution de notre société sur le plan socio-économique, avec la disparition de nos campagnes, de nos paysans dans les campagnes, et puis aussi l'évolution de la malbouffe, sans parler de toutes les pollutions liées à notre mode de vie moderne. On ne peut pas comprendre ça sans la télévision, qui est le grand propagandiste des multinationales, des grands groupes et de l'industrie chimique et des produits agroalimentaires, surtout. Parce que c'est vrai qu'à la télévision, les produits agroalimentaires sont très présents. Toute cette évolution de la société, elle s'explique parce qu'au fond, il y avait une technologie de propagande qui s'est mise en place, qui s'appelle la télé. Effectivement, c'était très lourd à financer. Pour les gens, pour en vivre, c'est très coûteux. Surtout, la télévision reste, et l'audiovisuel reste une technique très coûteuse. De ce fait, évidemment, il fallait faire appel à des financements qui sont colossaux, hein, qui venaient donc de ces structures ou superstructures économiques.
Vous vous êtes concentré justement sur de la publicité, même un travail qui était plutôt local ou régional. Ouais. Et puis maintenant, sur le bio.
Non, en fait, j'ai commencé... J'ai dit auparavant que j'avais été commercial pour des produits bio fermiers dans les années 98, donc c'était même avant.
C'est quelque chose qui est ancré, alors.
Oui, dans la mesure où en fait j'ai fait aussi une science histoire géographie, je m'intéressais aux questions rurales depuis les années Depuis les années 90, je voyais bien, même à 20 ans, et je pense que je n'ai pas été le seul à me poser quand même des questions sur l'évolution des campagnes, la disparition des petits paysans. Je dirais que c'est au milieu de mes études, quand j'ai été en études dans mon école d'audiovisuel, j'ai rencontré Caroline Dumas, qui maintenant a une ferme en biologie sur Mont-Laure.
Voilà, on peut ramasser des framboises.
On peut ramasser des framboises, voilà. Et c'est vrai que c'est elle qui m'a fait rencontrer le milieu... alternatif, le milieu de l'agriculture biologique. J'avais 24 ans, 25 ans à l'époque. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris un vif intérêt pour ce milieu-là parce qu'il sortait du discours capitaliste et productiviste habituel. Je me définis d'ailleurs comme objecteur de croissance dans la mesure où je pense qu'il faut absolument relocaliser l'économie, soutenir l'artisanat, la petite paysannerie et puis la petite industrie. Ça se fera aussi par des décisions citoyennes, une démocratie participative. C'est aussi une transformation culturelle. Voilà. Et je pense que le rôle d'un média local audiovisuel comme Alterdrome, c'est de participer à cette transformation culturelle.
Eh bien, on y vient justement, à ce média local Alterdrome. Très bien, présentation.
Donc, c'est un magazine vidéo sur les alternatives écologiques, sociales et solidaires dans la Drôme. Il a pour but de proposer, de présenter des alternatives qui ont lieu sur l'ensemble du territoire drômois, des alternatives qui sont généralement citoyennes, qui concernent l'écologie et le social. Sachant que pour moi, pour être efficace, il faut que ce soit indissociablement lié et d'une certaine manière même cohérent. Parce que je pense que l'intérêt de l'écologie, c'est quand elle est partagée par tous et que donc elle profite aussi à tous, qu'elle ait aussi des retentissements économiques. Même si, faut pas oublier que quand le climat se dégrade, le retentissement économique, enfin quand on a un problème de réchauffement climatique, donc ça a des conséquences économiques inévitables et qui ne seront pas forcément favorables. C'est d'où l'intérêt de parler de ces démarches citoyennes qui pourraient permettre de créer de l'emploi local aussi, hein, et puis qui pourrait nous éviter d'aller dans le mur en sortant du capitalisme et de sa logique productiviste.
Et pour vous, le maintien de ces campagnes, enfin tout ce que vous nous avez dit en introduction, ça passe par cette mise en avant et pourquoi pas médiatique, justement, un magazine, des vidéos, des films.
Alors, on est submergé de vidéos, on est submergé d'images, on est submergé de reportages. C'est incontestable. La seule différence, c'est que moi, je propose une ligne éditoriale cohérente dans la mesure où je privilégie avant tout un territoire. Et deuxièmement, je propose aussi un style et j'évite des traitements trop superficiels qui finalement rendent les choses beaucoup plus fades. C'est mon rôle de réalisateur d'avoir conscience qu'il faut attirer l'attention. Voilà, donc j'évite...
Soyons concrets, alors, quelle est votre patte de réalisateur ?
Alors, tout simplement, je pense qu'il faut s'immerger un peu quand même avec les gens qu'on filme. Et puis, il faut avoir un style,
c'est-à-dire
un ton humaniste, un ton très humaniste, mais avoir un souci d'efficacité. Alors, j'y viens, parce que finalement, je vais quand même dire ce que je pense. Je disais qu'il y a énormément de vidéos qui sont en ligne hein, sur toutes ces questions concernant l'écologie, le social, c'est très bien. Ça montre aussi qu'il y a beaucoup de citoyens qui s'y intéressent. Par contre, beaucoup, quand on entend vidéo, il y a deux sortes de vidéos, et ça, je m'aperçois que beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Il y a ce qu'on appelle la captation, c'est-à-dire la vidéo qu'on chope comme ça et qu'on va vite mettre sur Internet sans montage.
Avec son vieux portable.
Voilà, avec son portable. Voilà. Et puis c'est ce qu'on appelle la caméra témoin aussi, quelque part. Et puis il y a la narration. Et la narration, ça demande du temps, ça demande une élaboration, ça demande des savoir-faire d'artisan. Je me définis comme un artisan, autant que comme un réalisateur, auteur, artiste. Et donc, c'est là où rentrent en rôle mes compétences et qu'il n'y a pas forcément une incompatibilité avec d'autres types de vidéos. Mais simplement une différence de style et de forme qui font que il y a déjà moins de choses là-dessus. Quoi.
Alors sur Alterdrome, on a quoi justement ? Des reportages, des petits portraits, des...
Il y a un petit peu de tout. J'essaye de faire des sujets qui soient variés sur les questions écologiques et sociales, autant que le territoire soit le plus représenté dans tout au niveau géographique, que ce soit le nord, le sud, l'est, l'ouest, parce que c'est quand même sa logique, sa cohérence. S'il veut incarner la Drôme, c'est d'essayer d'incarner vraiment des endroits différents. Voilà. Donc il y a des portraits, d'une certaine manière avec par le biais de démarches écologiques. Alors on va rentrer effectivement dans le concret. Qu'est-ce qu'il y a dans le premier numéro d'Alterdrome ? Il y a donc 6 sujets. Le vélo mobile d'Hubert Fèvre, qui parle d'une expérience écologique, je dirais, originale et sûrement porteuse d'avenir, puisque c'est un monsieur qui se rend à son travail, qui est sur Avignon, avec un tricycle. Bon, là, il y a une assistance électrique, mais c'est pas
obligatoire. Il travaille à Avignon, mais il faut dire d'où il part quand même. Hein.
Et il part de Saint-Julien-en-Quin.
Voilà.
Donc, il fait, effectivement, il fait...
300 km, c'est ça, aller-retour.
300 km aller-retour, c'est ça, avec un tricycle. Et il arrive souvent à faire ça en 4 heures. Sachant que nous, en voiture, on va mettre 2h30.
Et soyons techniques, son assistance, sans trop dévoiler votre reportage, mais l'assistance électrique, c'est le même système, par exemple, qu'à bicyclette, là ? C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'il doit recharger lui-même ? Ou est-ce que ça s'auto-alimente en fonction du trajet qu'il fait ?
Oui, il y a les deux possibilités. Hein. Quand il arrive à plat chez lui, qui ne fait plus de trajet, il doit pouvoir alimenter sa batterie par le secteur. Mais dans tous les cas, elle se recharge elle-même dans les descentes, puisqu'il a un système de freinage qui, en fait, va permettre l'accumulation. Un frein moteur qui génère, parce qu'il ne faut pas qu'il aille trop vite dans les descentes non plus, c'est dangereux. C'est trop léger pour aller trop vite, surtout dans des virages. Et donc, du coup, pour ne pas verser. Et donc, du coup, il a quand même un système de freinage automatique qui permet d'accumuler par le frein du courant électrique qui est mis en batterie. Alors, je ne suis pas très technicien non plus. Ce n'est pas le but du reportage de rentrer. Il fait 10 minutes.
Mais pour rentrer dans votre travail, voilà. À vous, alors vous avez fait quoi là ? Vous l'avez suivi sur son trajet ? Vous l'avez filmé ? Vous avez suivi ses étapes ?
J'ai suivi une partie de son parcours habituel. C'est-à-dire qu'il passe en général par Marignac quand il va à Die. Et ensuite, il va pour aller sur Avignon. Il passe par le col de Poyol.
Col de Prémol, voilà.
Voilà. Puis il y a un autre... Il y a un ou deux cols qui sont susceptibles d'être un peu sur la même route, même axe. Et puis après, il va rejoindre la plaine de Montélimar, par la bégue de Mazin, qui prend le col d'Alérac, et du col d'Alérac qui descend sur Grignan. Et ensuite, il y a Malataverne, évidemment Carpentras, et ensuite Avignon. Donc il prend des petites routes, hein. Il ne va pas prendre des grands axes. Et ça lui permet, au fond, il coupe encore plus hein, de ce fait. Et même s'il fait un peu plus de relief, ça lui permet quand même de faire le trajet sur une durée raisonnable.
Il y a aussi, vous avez fait sur la map de Taulignan.
Exactement, parce que je voulais vraiment que la Drôme du Sud soit présente dans le reportage, au même titre que les autres régions. J'ai choisi à la fois un sujet sur Taulignan et un sujet sur Montélimar. Donc il y a un suivi un petit peu là sur plusieurs jours et sur plusieurs marchés, enfin j'emploie le terme marché, mais ce n'est pas le terme puisque c'est une AMAP, mais on va dire où les échanges se font entre AMAPiens et producteurs. Il y a trois moments comme ça d'échange et puis il y a deux jours de suivi avec des interviews de producteurs. Et donc, il y a un style un peu plus documentaire. Et de ce fait, je pense que je fais une présentation qui est intéressante, vivante surtout, du fonctionnement de cette AMAP, parce qu'il n'y a aucune AMAP qui ressemble aux autres. Toutes sont différentes dans la mesure où elles ne sont pas dans les mêmes terroirs, elles ne sont pas avec forcément les mêmes formes d'organisation, ni les mêmes produits à proposer toujours. Donc, c'est logiquement.
Il me vient du coup une question. Est-ce que ces différents reportages ou portraits peuvent avoir une dimension qui va au-delà de simplement fixer un instant une initiative ? Et donc là, dans le cadre de la map, pourquoi pas donner un modèle d'organisation à d'autres gens ? Est-ce que ça peut avoir une dimension d'éducation populaire ?
Oui, le but, c'est de participer effectivement à l'éducation populaire. La critique qu'on nous fait toujours, c'est de nous dire « Oui, mais monsieur, vous prêchez les convertis, c'est toujours les mêmes qui vont aller voir ce genre de sujet. »
C'est un peu vrai.
C'est vrai, mais en partie en réalité. C'est-à-dire que de la même manière que moi, je ne suis pas tout de suite venu au bio, j'étais soucieux des questions écologiques, mais je n'étais pas dans l'alimentation bio en fait à 22 ans. J'étais comme tout le monde, j'allais au resto U. Je voyais bien que je bouffais de la merde. Je voyais bien que l'agroalimentaire était de plus en plus présente dans les supermarchés et que c'était de moins en moins bon. Il a fallu effectivement des déclics. Ce sont des rencontres hein, qui font qu'on s'intéresse aux questions écologiques, on approfondit, on change un peu plus son mode de vie, on va dire, et son mode de consommation. Mais c'est aussi petit à petit, c'est aussi des outils culturels, des informations qui viennent aussi bien par les médias audiovisuels que la radio ou que la presse écrite. Donc c'est important qu'il y ait un grand nombre de support pour ces informations. Et je pense que ça joue aussi un autre rôle, c'est que ceux qui ne sont toujours pas convaincus, petit à petit, s'aperçoivent que ça prend une place dans la société qui est déterminante. Ça devient incitatif. J'ai fait une projection à l'Éden il y a 3 ans sur mes films. Écocite et décroissance, une URD dans la Drôme et Carapa Écocite des Cévennes. Il y avait dans la salle 35 personnes, c'était pas énorme, c'était pas à la honte. Il y avait 3 personnes pour Sherlock Holmes en même moment, donc je trouvais qu'il y avait de la marge encore.
C'est pas mal comme, comme bataille.
Et donc dedans, 2-3 personnes, jeunes personnes qui étaient, on voyait bien, pas du tout issues du milieu de l'écologie, qui étaient venues parce qu'ils étaient attirés, parce que les sujets étaient concernés l'écologie radicale, et donc ils avaient envie d'en savoir un peu plus. Voilà. Donc là, je pense qu'on a, j'ai marqué, quand il y a 10% dans un public qui est vraiment pour s'informer et qui découvre ces questions de manière moins institutionnalisée, parce qu'il y a beaucoup d'indices de discours institutionnels aussi sur l'écologie.
Et parfois mais, qui gonflent d'ailleurs.
Et qui gonflent vraiment, alors qu'on a besoin de choses qui incarnent beaucoup plus l'expérience citoyenne, l'expérience des individus.
Et les humains, et ouais, voilà. C'est sûr.
Ça a un effet, quoi. Il ouais. y a pas de
c'est
problème.
Déjà ça, c'est au moins 10% et c'est bah, plutôt bien.
Ouais, ouais, je pense qu'on va. Et puis il faut savoir qu'à chaque fois, j'ai fait quand même une vingtaine de foires bio. Prime Vert, des petites foires aussi qui étaient perdues dans des trous. Hein. J'ai vu qu'il y avait un public beaucoup plus populaire qui venait et moins militant, et donc ça, c'est pas mal.
Un mot sur Biovallée, est-ce que vous avez un lien avec eux ?
Non, pas du tout.
Comme ça, c'est fait. J'ai envie de demander un petit peu quand même comment est-ce que vous vivez de cette activité ?
C'est une bonne question.
Encore une auquel on a...
On n'a pas envie de répondre. Oui, je suis réalisateur-producteur indépendant depuis, je le disais, 9 ans. Et j'en tire un revenu qui est en dessous du SMIC, hein, faut pas se faire d'illusions. Borderline, comme on dit, j'ai été obligé parfois de travailler à côté, hein, à l'extérieur. Hein, j'ai même été dans les vignes, hein, ça m'a pas... c'est d'ailleurs pas un secret, hein, ça, je ne l'ai jamais caché à qui que ce soit. Et en même temps, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin de producteur. Parce que je considère que j'ai envie de m'exprimer là-dedans. C'est pas un souci pour moi. Je ne suis pas le seul à être dans le DIY, surtout à deux emplois, double emploi, d'avoir une activité artistique et à côté d'une activité qui à des moments sont plus alimentaires. Voilà. Puis c'est bon, il faut, pour répondre plus précisément, j'ai aussi, effectivement, je fais aussi des petits films, donc je disais publicitaires locaux. J'ai réalisé une vingtaine de films pour des campings et des gîtes depuis 2 ans. Et donc ça m'a permis de rentrer pas mal d'argent. Voilà. Mais j'espère, avec Alterdrome, pouvoir faire venir plus de monde sur ma production artistique et surtout militante, parce que c'est avant tout quand même un projet militant aussi. Hein. Je suis objecteur de croissance et donc je veux présenter des démarches citoyennes qui, à mon avis, incarnent aussi la possibilité pour nos territoires d'une transition économique, sociale et écologique, tout étant lié, hein, évidemment. Voilà.
Où trouve-t-on donc ce magazine Alterdrome ?
Alterdrome, en fait, le projet, avant tout, c'est de diffuser en projection débat. Et c'est ce qui s'est fait depuis 6 mois.
C'est-à-dire qu'on peut vous inviter, des associations peuvent vous inviter pour faire des projections privées ou
des projections privées ou publiques, voilà. Mmh. Et donc, il y a, depuis 6 mois, j'ai fait une dizaine de projections, 11 même, sur la Drôme. J'en prépare 2 ou 3 autres. Dernièrement, là, j'étais à Cré avant-hier. Le projet, c'est de faire connaître ce magazine par le biais de ses projections débat. Donc, ça permet aussi d'échanger avec les gens. Je trouve que c'est très important. Et puis, l'autre mode de diffusion, évidemment, bien, ça va être Internet, avec la possibilité pour les gens. On va dire qu'il y a 2 modalités. Étant donné qu'Alterdrome est diffusé par une association qui s'appelle l'Association de sensibilisation aux alternatives locales, écologiques et sociales, l'ASALES, je souhaite, si possible, avoir le plus de soutien possible, donc par le biais d'adhésion, à 12 € à l'année, qui permettent aux gens d'avoir le preview des reportages, preview de 2 mois. Puis après ces reportages, donc la deuxième modalité, ces reportages sont mis ensuite en ligne gratuitement, mais sur petit écran, alors que les adhérents peuvent continuer de voir les reportages sur le grand écran. Petit écran, un écran qui est suffisant pour avoir voilà, une bonne visibilité.
Pris dans la matrice de votre site.
Voilà, avoir une bonne visibilité. Ça me permet aussi du coup... à côté d'afficher des annonceurs, évidemment, des annonceurs locaux qui sont en lien avec l'économie locale et l'écologie, et donc de rester cohérent avec moi-même. Hein, il n'y aura pas Coca-Cola sur Alterdrome, c'est évident.
Et ça fonctionne localement. Il y a des annonceurs déjà prêts qui soutiennent là au démarrage du magazine, puisque c'est le premier volet.
Oui. J'ai une dizaine d'annonceurs actuellement. J'espère en avoir, je ne sais pas, 30, 50 annonceurs, ce serait déjà pas mal.
Alors, un site internet à retenir, www.alterdrome, sans l'accent bien sûr, et sans aucun accent d'ailleurs, .fr. On mettra le lien sur la page. Et Lazalès, alors, où la trouve-t-on si on veut adhérer?
Tout simplement, en fait, quand on va sur Alterdrome, il y a une page qui s'appelle Nous
Spécial.
Soutenir.
Voilà, ah, très bien.
Voilà, et là, on trouve, que ce soit les particuliers, que ce soit aussi les associations. Je vais d'ailleurs faire une petite parenthèse pour les associations. Mais aussi pour les professionnels, il y a un bulletin à télécharger. Là, je vais mettre en ligne un bulletin pour les artistes aussi. Chaque fois, c'est une cotisation différente. Pour le particulier, c'est seulement 12 euros. Une association qui voudrait pouvoir diffuser les films dans un cadre libre, quitte à faire des recettes de son côté avec la projection dans le cadre de ses actions à elle, eh bien, il suffit qu'elle adhère pour 50 euros et elle peut du coup diffuser les anciens magazines d'Alterdrome, donc les anciens reportages.
On imagine que le vélo mobile du Berfèvre, ça mettra un temps avant de se périmer, donc je pense que même dans 2 ans on pourra encore le diffuser comme étant un
oui.
exemple.
La question de la péremption ou pas d'un sujet se pose toujours pour moi. Je ne peux pas parfois démarrer sur certains sujets quand je sens qu'ils vont peut-être effectivement pas avoir les retentissements ou la durée et la viabilité. L'action est trop nouvelle, trop neuve pour être vraiment pris en compte. Parce que là, pour le coup, ça aurait aussi. Je suis aussi un producteur, je suis quelqu'un de très concret et très pratique. Et donc, je tiens compte de cette réalité. Il faut que ça reste. Pour que ça, parce que ça,
c'est
la
ça.
Preuve. Voilà. Ouais. Et c'est la preuve que c'est une action qui avait une pertinence réelle. Quoi. Si c'est trop rapide, si c'est du fugace, bah, c'est moins intéressant. Et puis, ça me fait faire un travail qui finalement est moins gratifiant pour moi. Voilà.
François Houg, voilà, vous êtes le créateur de Alterdrome. Ce premier magazine est déjà en ligne, on peut le consulter?
Oui, tout à fait.
Et ben voilà, donc on invite les gens à se rendre sur alterdrome.fr. Merci pour cette présentation.
Petite précision, actuellement ce sont des extraits en ligne, afin d'inciter les gens aussi à adhérer à Alterdrome.
Voilà.
Et puis après, d'ici 10 jours, à peu près une dizaine de jours, il y aura la mise en ligne pour les adhérents. Et puis dans 3 mois, 4 mois, petit à petit, les sujets seront mis gratuitement en disponibilité. Sachant qu'il y aura un DVD qui va sortir qui permettra de toucher aussi des collectivités qui souhaitent adhérer au même titre que les associations pour diffuser dans leur cadre d'action, que ce soit des lycées, que ce soit des...
On espère que l'éducation nationale s'en saisisse.
Voilà. Les institutions. Oui, parce que là, c'est quand même des démarches locales. Hein. On n'est plus dans des démarches qui sont répercutées nationalement, hein, dont on parle à l'échelle nationale, mais qui se passent en Bretagne ou qui se passent en Normandie. Il est important de montrer des choses aussi qui se passent vraiment ici et de les valoriser. C'est aussi vraiment le rôle de ce magazine.
Merci bien François encore une fois. À bientôt.
Merci à vous.
Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule.
Avec vous, Guy Moxon, vous êtes le fondateur de Vercors TV. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu aux auditeurs et puis présenter Vercors TV?
Mon profil, je viens de la télévision, donc j'ai travaillé 35 ans pour différentes chaînes en tant qu'intermittent du spectacle, comme réalisateur pour des émissions telles Couchoya, Grande Nature, etc. Surtout des émissions qui avaient trait au voyage, à l'aventure, à la nature. Je suis arrivé à la retraite et je n'avais pas envie de m'ennuyer. Donc, avec des copains, on s'est dit, pourquoi pas monter une web TV territoriale.
Et vous étiez déjà habitant du Vercors à cette époque?
Oui. Moi, ça fait 35 ans, oui, 32, 33 ans que je suis venu m'installer dans le Vercors.
Autour de Méaudre, hein, on va préciser quand même un petit peu pour nos auditeurs.
Donc, dans le Vercors Nord, dans la 4 montagnes, à côté de Méaudre.
Comment monte-t-on une web télé territoriale et locale?
Tout simplement, avec un petit groupe d'amis, on a fondé une association. On avait déjà pas mal de documents d'archives que nous avions tournés il y a 10 ans ou 15 ans, donc on pouvait déjà piocher. On avait un petit fond d'images et puis on s'est mis à tourner des images, donc acheter du matériel, etc. Comme une entreprise, à part qu'on est en association et qu'on est à 3, principalement sortant de cette profession-là également, quoi. La difficulté principale
Que présentez-vous à vos téléspectateurs ?
Des cours, ce qu'on appelle des cours, ça fait entre 3 et 6 minutes et ça touche à tous les événements qu'on peut traiter, bien sûr, sur le Vercors, en prenant le territoire du parc naturel régional. Depuis les Quatre Montagnes jusqu'au Diois, en passant par les Coumes, le Trièves, enfin, toutes les régions, le Royan. D'ailleurs, c'est un peu la difficulté qu'on a, c'est d'être... le Diois, par exemple, est très loin. Et le Royan, idem, le Trièves encore plus. Donc, ce qu'on cherche actuellement, et c'est notre préoccupation première pour le moment, c'est de trouver des correspondants, des gens qui puissent nous faire des reportages de qualité sur des régions éloignées pour nous, où on ne va pas tous les jours, quoi. Le tort, si on veut un peu de Vercors TV, c'est de traiter principalement le plateau central et le Vercors Nord. On essaye de mettre un réseau en place qui, bien sûr, demande rémunération. C'est pour ça, c'est aussi une des difficultés, c'est de boucler le budget, quoi.
Est-ce que vous avez en plus une volonté, je ne sais pas moi, écologique ou de mettre en avant l'économie sociale et solidaire, ce genre de choses ?
Oui, on peut mettre tout ça en avance par le biais du Vercors, parce que dans le Vercors, il y a suffisamment de choses qui se passent. Hein. On vient de filmer là, dernièrement un grand colloque, un débat sur les énergies renouvelables, le programme territorial, mis en avant par le parc. D'autres, on m'a filmé d'autres choses sur le développement durable, vraiment, que ce soit l'économie solidaire, etc. Tous ces domaines-là, on les trouve sur le territoire du parc. C'est le grand avantage du Vercors, c'est qu'il est très très diversifié, tant au niveau nature que culture. Je dirais même qu'on a trop d'opportunités. On ne peut pas tout filmer, on ne peut pas tout faire, tellement il y en a.
Alors, on ne saurait plus où donner de la tête.
Oui,
alors,
oui.
Vous êtes à combien d'années d'activité, là, déjà ?
Là, on fête le 3e anniversaire la semaine prochaine.
Alors, en 3 ans, est-ce que vous pourriez poursuivre un petit peu comme ça le bilan, un petit peu de ce qui a été bon et moins bon ?
Si on parle chiffres d'abord, en 3 ans, nous avons fait plus d'1 500 000 visites. Et cette année, on a déjà 800 000 visites, donc ça va crescendo. On atteint les chiffres qu'on voulait atteindre d'ici 5 ans. Enfin, on avait prévu en 5 ans d'arriver au 1 000 000 de visiteurs par an. Donc vous voyez, après 3 ans, ben, on y est quasi, quoi. Ça, c'est la première chose, c'est que le site est de plus en plus suivi, notamment par les gens de la région. Les principaux visiteurs, c'est Grenoble, Lyon, Valence, le sud de la France. Principalement à l'étranger, c'est au niveau européen plutôt frontalier, Suisse, Belgique surtout. L'étranger représente à peu près 10% de la part des visites, et dont la moitié vient de Belgique, de Suisse. Donc des gens qui connaissent le Vercors ou qui sont intéressés d'y venir. Et je crois que c'est là l'objectif pour nous, qui viennent ou qui ne viennent pas. Ça ne nous rapporte pas un franc de plus, comme on dit. Mais Vercors TV est un outil fantastique pour faire la promotion du Vercors. Et c'est bien ça que doivent penser les politiques ou les gens d'ici, c'est de nous soutenir dans ce domaine-là, quoi. On est un vecteur, un incitateur à venir sur le Vercors.
Ces politiques, voire même l'activité touristique ou l'activité commerciale du Vercors, vous renvoie-t-elle l'ascenseur ?
En partie. Ça commence à venir, ça a été très douloureux. À part deux régions qui nous ont directement soutenus, le Royan-Drôme et le canton de la Chapelle, qui nous a soutenus avec une petite subvention. Maintenant, ça commence à venir, le parc nous passe des commandes. Donc sur des sujets bien précis, bien typés du parc, le photovoltaïque, la pollution nocturne, tous ces sujets-là qui touchent la société. Il y a la CCMV, donc Quatre Montagnes, le canton de Villard-de-Lans, qui nous passe des commandes également. Disons, on commence à avoir un fonctionnement gagnant-gagnant, si on veut, mais eux sont intéressés de faire de la communication. Et plutôt que de passer par des grosses boîtes ou n'importe de Lyon ou ailleurs, ils commencent à passer par nous. Donc ça nous fait une rentrée financière qui permet de se tenir à l'équilibre.
Pour terminer, Guy Moxhom, avec cette brève présentation de Vercors TV, parlons un tout petit peu finance.
Les prix sont élastiques, hein, tout dépend s'il y a beaucoup de travail, s'il y a plusieurs journées de tournage, plusieurs journées de montage. Je dirais le prix minimum de ces commandes, ça tourne autour des 700 euros. Mais on peut dire que c'est une fourchette entre 700 et 2000.
Et pour monter cette web télé
Ça nous a coûté aux environs 12 000, 14 000 euros. C'est le matériel principalement, quoi. Que ce soit ordinateur, bande montage.
Et vous en avez combien alors de ces personnes qui...
Correspondant à l'heure actuelle, nous tournons sur trois qui nous donnent approximativement un reportage par mois, quoi. Plus quelques autres personnes qui nous envoient des reportages, nous soumettent des reportages qu'ils ont faits afin de voir si on peut les passer. Bon, bien souvent, on n'a pas la qualité, mais il y en a qui valent la peine. Et puis même, on fait un remontage à ce moment-là, gratuitement, et voilà.
Et allez-vous proposer des formations, par exemple, pour ces personnes ?
Ceux qui désirent, oui, mais il y a pas mal de formations sur le Vercors. Hein. Il y en a une actuellement qui va commencer, ceux qui veulent s'intéresser. En Saint-Jean-Royant, il y a de l'image à l'écran, un stage qui commence, et on incite vivement tous les gens qui travaillent avec nous à aller à ces stages de réalisation.
Je vous remercie pour cette présentation.
De rien.
Au revoir.
Capsule.
Biotope.
Un programme soutenu par BioValley.